Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Caroline découvre à 21 ans qu'elle est enceinte alors qu'elle avait pris la pilule du lendemain et que ce n'était pas du tout dans ses projets de devenir mère. Ayant dépassé le délai légal en France pour avoir recours à l'IVG, elle se rend en Angleterre. Après cette épreuve, elle pense naturellement qu'elle est hyper fertile pour être tombée enceinte malgré le contraceptif. Et pourtant, 10 ans plus tard, après avoir rencontré celui avec qui elle se voit faire des enfants, le sujet de la maternité revient dans sa vie. Ensemble, ils décident de devenir parents et Caroline pense que sa grossesse arrivera vite, mais au bout de quelques mois, toujours rien. Le couple se met d'accord pour faire des tests au bout d'un an d'essai et c'est le spermogramme qui explique finalement pourquoi Caroline ne tombe pas enceinte. Dans cet épisode, Caroline nous parle de cette tendance à répondre que tout s'est bien passé alors qu'en fait on a vécu les montagnes russes de l'infertilité. Bonne écoute! Hello Caroline!
Salut!
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas!
Ben merci à toi pour l'intérêt que tu y portes.
Avec grand plaisir! Alors toi, tu es la maman de 2 enfants?
Oui.
Ils ont quel âge?
J'ai 2 petits garçons, Sacha qui a 3 ans et demi et Romane qui a 5 mois.
Ok! Alors avant de parler de ton aventure dans la maternité, toi plus jeune, quel regard tu portais justement sur... ce sujet-là, est-ce que tu t'es toujours dit « je deviendrai maman un jour » ou c'était pas un sujet qui t'intéressait forcément ?
En fait, c'est un sujet que j'avais pas trop questionné, mais pour moi, c'était assez évident que un jour j'aurai des enfants. C'était le schéma très classique où ouais. Moi-même, dans ma famille, on est 4, j'ai une grande sœur et sans jamais trop me questionner là-dessus, il y avait une forme... d'évidence et peut-être inconsciemment de reproduction de ce que j'avais connu moi-même.
Ouais, donc tu voulais plutôt une famille nombreuse aussi
je, 2 enfants.
2
Ouais, conforme à ce que moi j'ai connu dans ma famille, sans grande originalité.
Ok, donc mission accomplie déjà.
Oui, mission accomplie.
Mais ça a été un peu la mission.
Ouais, ça s'est pas tout à fait passé comme je pensais.
Ouais, à quel moment est arrivé le sujet de la maternité dans ta vie?
Bah, en fait, moi, j'ai vécu quelque chose d'un peu particulier à mes 21 ans. Je suis tombée enceinte. J'avais pris la pilule du lendemain, mais ça n'avait pas fonctionné.
Ok.
Donc, j'ai appris à cette occasion qu'il y avait 5% des cas où ça ne fonctionnait pas. Et je faisais partie de ces 5%. Et il y a eu un concours de circonstances assez dingue où, en fait, je suis partie en stage. J'étais à l'époque en école de journalisme. Je suis allée au Mali. Mmh. Et donc, j'ai enchaîné les plaquettes de pilules pour pas avoir mes règles là-bas parce que j'allais être dans des conditions un peu précaires.
Ouais.
Et donc, il se trouve que pendant une longue durée, je ne me suis pas rendue compte que j'étais enceinte puisque c'était normal que je n'ai pas mes règles.
Eh oui.
Et j'ai fini par m'en rendre compte en revenant du Mali parce que je vomissais, je perdais du poids, je comprenais pas trop ce qui se passait dans mon corps.
Mmh.
Et donc, j'ai été hospitalisée, j'ai fait des prises de sang et on a compris que j'étais enceinte et que j'avais dépassé le délai légal en France.
Ah ouais, donc là, tu étais à plus de 12 ou 14.
Ouais, 13 semaines, je crois.
Ouais.
Et donc, j'ai dû partir à Londres, en Angleterre, où ils ont des délais légaux plus longs pour ouais. avoir recours à l'IVG. Et donc, j'ai eu recours à une interruption volontaire de grossesse là-bas. J'avais 21 ans et ça m'a complètement traumatisée.
Ah oui.
Et donc, j'ai fait de cette question-là un tabou total. J'en ai plus jamais reparlé à personne pendant 10 ans. C'était vraiment mon secret le mieux gardé.
Ouais.
Et j'en avais tiré la conclusion que je devais être extrêmement fertile.
Mmh.
C'est pour ça que je raconte cet épisode de ma vie, parce que ça a eu un lien avec la manière dont, par la suite, j'ai mal vécu le fait de ne pas tomber enceinte.
Ouais.
Parce que voilà, j'avais eu le sentiment que j'avais pris la pilule du lendemain, que j'étais quand même tombée enceinte, et je me suis dit, il faut que tu fasses hyper attention, le moindre impair, tu pourras tomber enceinte. Et donc j'ai pris la pilule pendant les 10 années suivantes avec une rigueur de métronome et avec la peur,
ouais,
de retomber enceinte alors que je ne le voulais pas.
Et tu avais dit à ce moment-là, les médecins, que ça pouvait ne pas fonctionner à 5% des cas, la pilule du lendemain ?
Je ne crois pas, mais il me semble que c'est marqué sur la notice de la pilule du lendemain.
Ok.
Et donc, en fait, quand j'ai voulu être enceinte 10 ans plus tard, pour moi, j'avais gardé dans un coin de ma tête que j'arrêterais la pilule et que je tomberais enceinte.
Ouais.
Et c'est pas ce qui s'est passé, et je pense que ça a participé à mon incompréhension de pourquoi, quand je ne voulais pas être enceinte, je suis tombée enceinte, et 10 ans plus tard, quand j'essaye de l'être, ça marche pas.
Ouais.
Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a traumatisée dans cette IVG ?
En fait, c'est de découvrir qu'on est enceinte, passer 3 mois sans s'en rendre compte, sans qu'il y ait absolument rien dans son corps qui traduise une grossesse.
Ouais.
Et moi, je déteste le terme de déni de grossesse, parce que j'avais même pas l'impression d'être dans le déni, puisque je n'avais vraiment pas d'informations là-dessus.
Mmh.
Pour moi, le déni, il peut s'appliquer à quelque chose où on nous donne des signaux qu'on ne veut pas voir. Et en l'occurrence, j'avais pris la pilule du lendemain, il y avait une raison précise au fait que j'ai pas mes règles, donc vraiment, je ne le savais pas.
Ouais.
Et donc, c'est hyper choquant d'apprendre qu'on est enceinte de plusieurs semaines, et surtout que j'étais jeune, j'étais pas du tout dans un projet de maternité. C'était mon copain de l'époque, mais vraiment comme ça, quoi.
Mm.
Et donc, c'est hyper choquant. Et puis, c'est d'autant plus choquant et inconfortable de se dire que la seule solution qui s'offre à nous, elle est illégale dans notre propre pays. On,
ouais,
a l'impression de... Enfin, c'est pas une impression, on se met hors la loi.
Mmh.
Alors que moi, j'avais juste le sentiment de m'extirper d'une situation où j'avais pas le choix, en,
ouais,
fait. Et moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui ont pu m'aider financièrement à ce moment-là pour aller à Londres pratiquer cette IVG. Mais j'ai toujours pensé aux femmes qui n'avaient aucune aide financière. Comment elles auraient fait à ma place, et
oui,
voilà.
Parce que tu dois payer aussi l'interruption.
Ouais, c'était il y a
l'acte médical.
Plus de 15 ans, donc je me souviens plus exactement. Mais bon, ça a un coût d'aller à Londres,
oui,
le billet train, l'acte médical en tant que tel. Mais alors, en l'occurrence, moi, c'était une clinique très douce où tout était adapté à ça. Il y avait des formulaires dans toutes les langues, parce qu'il y avait des femmes de toute l'Europe,
ah, ouais,
nées, quand elles avaient dépassé dans leur propre pays le délai légal.
Mmh.
Donc, j'ai trouvé un endroit plutôt accueillant et réconfortant, mais ça n'a rien enlevé du traumatisme que ça a été pour moi à cette, mmh, époque-là.
Et physiquement, l'acte en lui-même, ça a été traumatique aussi?
C'était une anesthésie générale, donc presque tant mieux, parce que j'ai pas vraiment vécu ce moment, et je me suis,
ouais,
réveillée, je me suis dit que mon cauchemar était terminé. Mmh. Je l'ai vécu comme une course contre la montre à laquelle,
ouais,
j'avais mis fin dans cette clinique londonienne.
Et t'étais accompagnée ?
J'étais avec mon copain de l'époque qui était,
d'accord,
venu avec moi. On,
okay,
était allés tous les deux, ouais.
Ok, donc première entrée dans la maternité assez...
Oui, assez compliquée. Et puis en plus, qui pour le coup n'était pas du tout de la maternité pour moi.
Oui.
J'ai jamais associé... le fait d'être enceinte à la maternité, bizarrement, parce que pour moi, si on ne veut pas d'enfant, on peut être enceinte, mais on ne peut pas parler de maternité.
Ouais.
Enfin, c'est deux choses à dissocier totalement, d'où l'importance de l'IVG et du fait que, ouais, ça puisse être légal en France. Donc pour moi, c'était pas de la maternité, mais en tout cas, ça m'a juste questionnée sur ma fertilité,
mmh,
on va dire, et sur le fait que je devais être... particulièrement fertile,
oui,
pour en arriver là, voilà.
Donc les années passent, tu rencontres
les années passent,
chérie.
Voilà, je rencontre Cyril, qui sera donc, qui va devenir mon mari et le père de mes deux enfants. Et en fait, c'est en le rencontrant lui que moi, mon désir d'enfant naît. Je savais que je voulais être mère, mais je n'étais pas du tout dévorée par ça. Je l'ai rencontré quand j'avais 29 ans. Mmh. Et au bout de 2-3 ans avec lui, bah, plus qu'être mère, en fait, je voulais des enfants avec lui.
Ouais.
Je voulais qu'on vive ça ensemble. Et donc, on a pris cette décision de manière heureuse et légère. Et voilà, et donc j'ai arrêté ma contraception et je me suis dit, j'ai dit pilule, mais en fait je prenais j'avais un stérilet à ce moment-là.
Okay.
Et puis je me suis dit, bon bah, ça va arriver vite. Mm. Et en fait, je me rends compte dans les premiers mois que ça n'arrive pas, ce qui est absolument pas grave et même, je pense, assez normal. Mais sauf que moi, je le vis très mal et de manière totalement irrationnelle. Où tout de suite, ça m'angoisse, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et ça devient quelque chose de complètement obsessionnel chez moi.
Dès le début, dès les premières...
Dès les premiers mois, quand j'ai mes règles, j'ai envie de pleurer. Je le vis très mal. J'ai mes amis autour de moi qui tombent enceintes. J'ai l'impression que ce qui est la chose la plus facile du monde pour les autres nous est inaccessible. Et surtout, je ne comprends pas. Enfin, je me demande ce qui cloche. Et je crois que pour moi, c'est cette période-là qui a été la plus dure, parce que quand on fait des tests de fertilité et qu'on a une réponse, au moins on sait ce qui cloche et on sait comment y remédier.
Ouais.
Mais le fait de ne pas savoir et d'être dans l'attente, j'avais l'impression de vivre une peine invisible, parce que je me sentais pas du tout légitime à pouvoir dire, bah, moi ça fait... 6, 8, 10 mois que j'essaye et que je tombe pas enceinte, bon bah c'est pas grave, ça arrive à plein de gens d'attendre.
Mmh.
Mais moi je le vivais très mal.
Ouais.
Et j'avais l'impression que tout ça n'était pas fondé, donc je culpabilisais de mal le vivre. Et au bout d'un moment, on s'est mis d'accord avec Cyril sur le fait que au bout d'un an d'essai, on irait faire des tests.
Ok.
Et donc on est allé faire des tests qui nous ont permis de comprendre pourquoi ça ne marchait pas, où lui avait un problème de mobilité des spermatozoïdes qui n'était pas grave. Ils nous ont dit que ça pouvait quand même se produire naturellement, mais que ça expliquait pourquoi, au bout de plusieurs mois d'essai, ça ne marchait pas.
D'accord.
Et donc, ils nous ont dit qu'on avait le droit de rentrer dans un protocole PMA au vu des résultats de son spermogramme.
Comment tu l'as vécu, toi, le fait que ce soit de son côté et pas du tien, finalement
Bah, en fait... Pour moi, presque peu importe que ça soit lui ou moi, je voulais juste comprendre et avoir une réponse. Et ça a presque été un soulagement de me dire « Ok, on a vu le problème,
ouais.
On a une solution. » Je crois que je préférais encore ça plutôt qu'on me dise « Bah, tout va bien et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas.
Ouais. »
Ça aurait peut-être été un peu plus angoissant pour moi. Là, au moins, je comprenais ce qui se passait. Et le gynécologue qui m'accompagnait à l'époque m'a dit « Voilà, on peut faire une PMA avec stimulation ovarienne. » Et une insémination, donc c'est plus léger qu'une FIV.
Oui.
Il n'y a pas de ponction d'ovocyte. C'était juste, moi, je devais faire de la stimulation ovarienne. Et lui, bah, ce qu'on appelle un recueil de spermatozoïdes, qu'ils inséminent avec une pipette. Donc, c'est médicalement très léger, si ce n'est la stimulation ovarienne qui dure 15 jours. Les 15 jours
précédents. C'est des piqûres tous les soirs pour toi.
Voilà, c'est des piqûres tous les soirs dans le ventre. Donc, on s'est lancé là-dedans. Moi, je l'ai fait. Ça me paraissait pas trop compliqué. C'est pas très agréable, évidemment, parce que ça médicalise tout et ça enlève toute place à la spontanéité. Mais ça me paraissait moins grave que l'année que je venais de passer à attendre.
Mmh.
Et donc, on a fait cette insémination. Et ça a marché du premier coup.
OK.
Donc, là, quand on a fait le test au bout des 14 jours où j'ai vu que j'étais enceinte, j'avais beaucoup de mal à y croire.
Ouais.
Donc, j'ai fait un test, j'ai fait une prise de sang pour être bien sûre et acter dans ma tête que c'était positif. Et une fois qu'on a fait cette prise de sang, on a eu une échographie quelques semaines plus tard, je dirais 2-3 semaines plus tard chez mon gynécologue. Et là, il nous dit, surprise, il y en a deux.
Ok.
Et donc nous, on était hyper contents avec Cyril parce qu'on le vivait. On s'est dit, bon bah puisqu'on a du mal à avoir des enfants et que on était dans l'idée d'avoir deux enfants, on s'est dit, bon bah d'une pierre deux coups, c'est super, y en a deux. Bon, alors après, c'était assez vertigineux parce que quand on attend des jumeaux, on entend des trucs horribles. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « tu vas vivre un enfer
».
Moi, j'ai acheté un livre sur comment accueillir des jumeaux. On a l'impression que c'est une petite usine à gaz qui se met en place.
Ouais.
Mais moi, j'étais super contente et hyper excitée à l'idée d'avoir des jumeaux. Ça ne me faisait pas peur. J'étais assez enthousiaste. Et puis, est arrivé l'écho des 3 mois. Et là, l'écho des 3 mois, ils ont constaté qu'il y avait l'un des deux bébés qui avait des problèmes très graves. Enfin, ils ont vu plusieurs malformations. Ce qu'on appelle donc la clarté nucale, qui est l'épaisseur de la nuque qu'on regarde à l'écho des 3 mois pour déceler les trisomies. Ils ont vu qu'il y avait un problème d'épaisseur de la clarté nucale. Et voilà, donc ça a été évidemment un choc énorme. Et l'autre bébé, lui, allait très bien. Il n'y avait rien d'anormal, en tout cas, à ce stade qui a été décelé. Et donc, les malformations étaient telles qu'ils nous ont proposé une interruption médicale de grossesse. Donc, que sur l'un des deux bébés. Donc, pour moi, ça a été... il s'est passé entre l'échographie des 3 mois et l'interruption médicale de grossesse 3 semaines, qui ont été les pires 3 semaines de ma vie, parce que je devais composer avec le fait d'être enceinte, le fait que l'une des deux grossesses allait s'arrêter, que l'une des deux allait continuer. Et donc, j'ai été dans des sentiments ultra ambivalents... entre le deuil d'un enfant, le fait d'emporter un autre. Enfin, je me dis, mais comment on peut composer avec des sentiments si contradictoires au même moment, quoi.
Ouais. T'as pu être accompagnée par une
petite... Oui, alors, donc j'étais à Port-Royal, parce que justement, j'y étais allée suite à... Quand on avait su que c'était des jumeaux, vu que les grossesses gémellaires sont considérées comme des grossesses à risque, j'ai été à Port-Royal, qui est une maternité de niveau 3, donc très bien équipée. Et donc là-bas, ils m'ont proposé de voir une psy que j'ai vue à ce moment-là, mais j'étais tellement mal que je crois que ça a servi à rien à ce moment-là. Ouais, c'était trop. Et donc, on a fait une amniosynthèse et ils ont introduit une aiguille, en fait, pour mettre fin à la croissance du fœtus. Et il y avait un risque de fausse couche pour l'autre de l'ordre de 5 à 10%. Donc évidemment, j'étais tétanisée à l'idée de perdre mon autre bébé. Et
ça se faisait sous anesthésie
Non.
Enfin, en général
Non, c'était juste une piqûre dans le ventre. C'était assez indolore.
D'accord.
Physiquement, même si dans la tête, c'est hyper violent.
Ouais.
De se dire, enfin, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer sur le bloc opératoire. Voilà. Et en plus, à ce moment-là, je me sentais assez seule parce que j'avais l'impression d'être dans un cas de figure ultra spécifique, d'être enceinte de jumeaux, d'avoir l'un des deux dont on doit arrêter la croissance et pas l'autre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé sur Internet pour voir si je trouvais des cas comme le mien. Et en fait, je suis tombée sur. Dans les tréfonds d'un forum où il y avait une femme qui avait vécu la même chose que moi et qui avait une formule qui m'a beaucoup heurtée sur le moment, qui disait « j'ai l'impression de porter la vie et la mort en même temps ». Et j'ai lu ça et j'ai refermé mon ordinateur en me disant « je vais arrêter d'aller regarder sur Internet » parce que je trouvais la formule hyper crue et en même temps, elle résumait ce que je ressentais.
Ouais.
Donc voilà, donc on a fait cette interruption médicale de grossesse.
Donc là, il faut l'annoncer en plus à tous tes proches,
que ce ne sont plus des jumeaux. Que ce ne sont plus des jumeaux. Et puis en plus, j'avais un très gros ventre. Et du coup, j'avais le droit à plein de réflexions de gens qui n'étaient pas au courant de l'histoire, qui disaient « ah, mais on dirait qu'il y en a deux là-dedans Voilà, des réflexions anodines et pas du tout méchantes, mais qui renvoient à ce qu'on vit, quoi. Et en fait, j'avais peur que tout ça ne me permette pas du tout de profiter de ma grossesse. Et j'avais peur de tout ce que, toute la peine que je ressentais, que ça altère ma grossesse pour celui qui va bien.
Ouais.
Donc, c'était pas évident à gérer. Puis finalement, les semaines passant, j'ai fait le deuil du bébé que j'avais perdu et le fait de porter son jumeau qui lui allait très bien, c'est ce qui a fini par prendre le dessus au fur et à mesure des semaines et des mois qu'on passait. C'est la vie qui a pris le dessus sur le reste.
Et au moment de... Je vais revenir juste sur l'acte médical, encore une fois, là, de l'IMG. Tu expulses à un moment aussi...
Non,
comment ça se passe?
En fait, non, parce que quand on est enceinte de jumeaux, si l'interruption médicale de grossesse n'a lieu que pour l'un des deux, en gros, ils disent que les cellules vont se résorber à l'intérieur. Mais c'est une des questions que j'ai eues face... je suis tombée sur... une gynécologue extraordinaire à Port-Royal qui m'a accompagnée médicalement, humainement, à tout point de vue et heureusement. Et c'était une des questions que j'avais, mais qu'est-ce qui va se passer? Et elle m'a dit que les cellules se résorberaient, se colleraient au placenta. Et donc, quand j'ai accouché à la fin de ma grossesse, c'était un amas cellulaire qui est parti avec le placenta.
D'accord. Et pendant les échographies qui ont suivi, t'as plus la poche des os
En fait, moi, c'était ce qu'on appelle une grossesse bicoriale biamniotique. Ça veut dire que c'était deux poches différentes.
Ouais.
Donc, y a une poche qui s'est complètement résorbée.
D'accord aussi.
Et bon, ils n'étaient pas dans la même poche. Ce qui était ce qui m'a un peu sauvée parce que ça rendait moins risqué l'interruption médicale de grossesse que s'ils avaient été ensemble dans la même poche.
Ok.
Et en fait, j'ai voulu comprendre pourquoi il m'était arrivé ça et on m'a dit qu'il y avait de fortes chances que ça soit lié à la stimulation ovarienne.
Ah oui.
Et que j'ai été enceinte de jumeaux et qu'en fait, en raison de la stimulation, un embryon qui était totalement imparfait sur le plan génétique s'était quand même présenté. Et ce qui a expliqué que j'étais enceinte de jumeaux et qu'en fait cet embryon n'était pas viable.
D'accord.
Même s'il se développait.
Sans t'en avait pas parlé en amont, que c'était une possibilité.
Et en fait, non, en fait, on m'a dit que. Non, on m'a parlé des risques de trisomie.
Ouais.
Et donc, nous, on a fait l'interruption médicale de grossesse avant d'avoir les résultats de la trisomie pour les deux, parce que de toute façon, il avait des malformations tellement importantes qu'on se disait que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et on a eu les résultats pour la trisomie le lendemain, ou le surlendemain de l'opération. Et il se trouve qu'il avait une forme très sévère de trisomie 21, en plus de ses autres malformations.
Ouais.
Donc, quelque part, je me suis dit que... Parce que c'est un choix très lourd. En gros, on vous présente les options qui s'offrent à vous en disant c'est vous qui décidez si on fait une interruption médicale de grossesse. Et donc, forcément, il y a un côté culpabilisant. On se dit, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il peut quand même s'en sortir? Ouais. Comment il peut vivre?
Il y a mille questions.
Voilà. Et en fait, les médecins nous faisaient comprendre que ça serait très compliqué, mais sans nous orienter non plus, en nous laissant totalement notre libre arbitre, ce qui est normal.
Ouais.
Et en fait, quand j'ai eu la docteure de Port-Royal qu'elle m'a dit qu'il avait une forme très sévère de trisomie 21, c'est la première fois qu'elle m'a dit « donc vous avez fait le bon choix ». Et en fait, ça m'a vachement soulagée de l'entendre du corps médical, parce que j'avais jamais su, enfin j'étais, je pouvais pas être certaine qu'on ait fait le bon choix.
Ouais.
Et
c'est une situation compliquée.
Ouais. Voilà.
Ok, donc après tu poursuis ta grossesse. Donc...
Je poursuis ma grossesse et la suite se passe bien.
Ouais.
Pour le coup.
Moralement, t'arrives à.
J'arrive à reprendre le dessus au bout de plusieurs semaines. Et puis je fais l'écho du deuxième trimestre, tout va bien, l'écho du troisième trimestre, tout va bien, donc c'est un soulagement, je me dis voilà, ça peut être très compliqué, j'espère que j'ai eu ma part de compliqué et que le reste sera plus facile, et en l'occurrence ça a été le cas, et jusqu'à l'accouchement où j'ai eu un accouchement hyper facile, j'ai perdu les os 3 semaines avant le terme. Et le travail s'était mis en route tout seul et j'ai accouché de mon petit garçon Sacha et tout s'est très bien passé. Ouais.
T'avais fait un projet de naissance ?
Pas spécialement, ça me parlait pas vraiment le côté projet de naissance, je voyais pas trop à quoi ça pouvait correspondre.
Ouais.
Et j'ai rien fait de spécial.
C'était péridural, accouchement.
Ouais, péridural. Et puis moi j'étais vu que j'avais vécu des choses assez compliquées, j'étais plutôt dans une optique plus vous médicalisez la chose, mieux je me porterai. Ouais. Parce que quand on vit des situations compliquées, le fait que ça soit médicalisé est quand même très rassurant. Mmh. Donc, moi, j'étais très à l'aise avec la péridurale, vraiment. Et voilà. Et donc, on a eu notre petit garçon, Sacha.
Ouais. Comment s'est passée la rencontre ?
C'était... totalement incroyable. Ouais. On a tous les deux pleuré en découvrant... son visage, ses cheveux, on est tous les deux bruns aux yeux marrons, on a eu un petit garçon blond aux yeux bleus, donc on n'en revenait pas. Et ça a été, c'est très banal de le dire, mais l'un des plus beaux moments de ma vie.
Ouais.
C'était merveilleux, et d'autant qu'on l'avait attendu, ce bébé, et puis qu'on avait vécu des choses compliquées pendant ma grossesse, et le fait de l'avoir entre nos bras, ce petit bébé qui va très bien.
Mm.
C'était incroyable.
Ouais. Tu l'as allaité ou pas ?
Non.
Non ?
Non, j'avais pas envie d'allaiter. L'allaitement ne me parle pas du tout, mais je dis ça sans aucun jugement dans un sens ou dans un autre.
Oui, bien sûr.
C'est super intime, mais moi, j'étais pas très à l'aise avec le fait d'allaiter. C'était super important pour moi qu'on puisse, après la grossesse, être sur un point d'égalité totale entre Cyril et moi. Et j'avais l'impression que l'allaitement ne le permettrait pas. Et puis, j'avais envie de retrouver ma liberté physiquement.
Ouais.
Je ne l'ai pas allaité et ça m'allait très bien comme ça.
Ouais. Donc, retour à la maison, comment sont passés tes premiers jours en tant que maman ?
C'est un tourbillon.
Ouais.
C'est à la fois une claque, mais pas dans le sens... une claque, c'est trop péjoratif, mais tous nos repères sont complètement balayés, bousculés... On se sent vulnérable. Et pour le coup, moi, j'ai découvert le postpartum, qui s'est très bien passé dans mon cas. J'ai pas eu de dépression ou quoi que ce soit. Mais en fait, on pense que quand on a accouché, c'est fini. Et c'est pas du tout fini physiquement. On a le sentiment d'avoir le corps en chantier. Mmh. Il se passe... on récupère pas du tout notre corps dans les semaines qui suivent. Et moi, j'avais l'impression qu'on m'avait beaucoup parlé de la grossesse, mais moins de l'après.
Ouais.
Alors, heureusement, j'avais fait des cours de préparation à la naissance avec une super sage-femme qui, pour le coup, avait bien accès autour du postpartum et de toutes les transformations physiques qu'il peut y avoir. Parce que je trouve qu'il y a un côté un peu ingrat dans le corps postpartum. On valorise beaucoup le corps de la femme enceinte, du beau ventre rond. Mais par contre, le ventre un peu flasque, on n'en parle pas du tout. Mmh. Et donc, je trouve qu'il y a une partie hyper ingrate.
Oui, c'est focus sur le bébé.
L'attention part sur le bébé. Et donc, c'est une période qui est vraiment pas facile, je trouve, dans la vie d'une femme. Enfin, à la fois, c'est merveilleux parce qu'on a notre enfant, on devient mère et... Il y a plein de sentiments ultra puissants liés à ça. Et en même temps, c'est pas facile, c'est épuisant. On est paumé, on est en congé maternité seul avec son bébé. Enfin, c'est pas que merveilleux, quoi. Il y a plusieurs facettes à tout ça.
C'est intense.
Voilà, à tout point de vue.
Et donc, quelques années plus tard, vous décidez
d'avoir un deuxième enfant et... On attendait que Sacha ait un peu grandi et puis on s'était dit, on avait complètement intégré l'idée que ça marcherait pas naturellement et que c'était pas grave. Et donc on s'était dit qu'on referait une deuxième PMA. On savait qu'on avait eu de la chance la première fois que la PMA fonctionne du premier coup. Donc là, je me disais, il y a 3 années qui sont passées, peut-être que ça fonctionnera... pas forcément du premier coup, il faut que j'y sois prête psychologiquement. Et,
ah oui, tu disais ça.
Ouais.
Ok.
Et on est allé voir une nouvelle gynécologue et qui elle était spécialiste de l'infertilité des PMA. Et donc on a refait de nouveaux tests pour voir où on en était puisque ça peut évoluer.
Ouais.
Et on en était exactement au même point qu'il y a 3 ans. Enfin, ça s'était pas vraiment détérioré du côté de Cyril et de mon côté, ma réserve ovarienne était bonne. Elle m'avait dit donc
plutôt rassurant.
Plutôt rassurant. Et elle nous dit, moi, de ce que je vois, ça peut arriver naturellement. Donc, plutôt que de rentrer dans un processus médicalisé d'entrée de jeu, où si l'insémination marche pas, on passera tout de suite à une FIV. Les FIV, au bout de 3 FIV, les chances diminuent. Laissez-vous quand même le temps que ça puisse marcher naturellement. Moi, j'étais plutôt réticente à cette idée parce que j'avais complètement acté l'idée que ça marcherait pas.
Ouais.
Et du coup, j'avais un peu l'impression de perdre mon temps. Mais Cyril, lui, était plutôt convaincu par le discours de la gynécologue. Et tenez à ce qu'on laisse la chance à la nature.
Ouais.
Et donc, on a acté l'idée qu'on se laissait 6 mois.
D'accord.
Pour essayer, ce qui était pas très long. Donc, moi, ça, j'avais... Enfin, voilà, c'était un compromis, quoi, ouais. De se donner 6 mois. Et les 6 mois sont passés, j'étais pas enceinte. Et donc, bah, on a pris rendez-vous pour faire une PMA. Et 5 jours avant le rendez-vous, je fais un test de grossesse et je vois que je suis enceinte.
Ah !
Donc, j'étais... En fait, je faisais un test de grossesse, non pas parce que je pensais que j'étais enceinte, mais parce que c'était quelque chose que j'avais tellement mal vécu, l'attente, que ma manière à moi de balayer l'attente, c'était plutôt que d'attendre d'avoir mes règles, je faisais un test pour minimiser la phase d'attente. Mmh. Ça peut paraître bizarre,
c'est pas con, non ?
Mais en fait, voilà, ça me permettait d'éviter cette phase de quelques jours où les symptômes des règles sont similaires à ceux de la grossesse et de me poser 10 000 questions tous les jours pour savoir si j'étais enceinte ou pas enceinte. Je me disais, je fais mon test, je balaye. Et donc, je le faisais vraiment comme une routine pendant 6 mois. Et donc là, je l'ai fait en étant persuadée que c'était pas le cas.
Ça
devait être surprise, là. Donc, j'étais hyper surprise. J'arrivais pas à y croire, puisque j'avais totalement intégré l'idée que ça marchait pas naturellement. Donc, j'ai fait un deuxième test, qui était aussi positif. J'ai fait une prise de sang. Et j'y croyais pas, quoi. J'étais un peu sous le choc.
Ouais. Comment tu l'as annoncé à ton mari ?
Bah, en fait, j'ai attendu le soir qu'on se retrouve à la maison.
Ouais.
Et en fait... Je m'étais toujours dit, si un jour je tombe enceinte naturellement, je trouverais une manière de l'annoncer hyper originale et tout. Et en fait, j'avais envie de lui dire la manière la plus simple qui soit.
Ouais.
Parce que j'avais jamais pu lui faire la surprise, vu que la première fois, tout était médicalisé. Et j'avais jamais pu lui dire, bah, je suis enceinte.
Mmh.
Et donc,
je
lui ai dit, j'ai un truc à te dire. Et il s'est retourné, je lui ai dit non, mais il m'écoutait à moitié, je lui ai dit non, mais il faut que t'écoutes, c'est important. Et juste de pouvoir lui dire les yeux dans les yeux, je suis enceinte, bah pour moi c'était la plus belle des manières qui soit, et c'était la surprise que j'avais pas pu lui faire la première fois. Comment et qui était d'autant plus surprenante au vu de notre parcours. Bah, il a bugué. Enfin, il me regardait en disant quoi, mais qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes, quoi.
Ouais, on n'a pas commencé la PMA. Ouais.
Et je lui ai dit, mais si, si, je te jure, je suis enceinte. Moi aussi, j'arrive pas à y croire. Et en fait, il se trouve que du coup, j'avais un rendez-vous une semaine après chez la gynécologue. Et donc, ce rendez-vous qui devait être pour lancer la PMA, c'est retrouvé être un rendez-vous de la première petite écho.
De suivi, de grossesse.
Oui, on voit juste une petite poche noire. Mmh. Voilà, où elle m'a confirmé que j'étais enceinte. Et elle était hyper contente que ça lui ait donné raison.
Ouais,
parce que ça nous avait vraiment encouragés à attendre 6 mois. Et au bout du 6e mois, ça a marché.
Et même ton mari, je ne sais pas si ça a été le cas, mais est-ce qu'il culpabilisait du fait que le problème vienne de lui ?
Pas du tout.
Non.
Lui, il l'a vécu hyper sereinement.
Ouais.
Et même mon gynécologue de ma première grossesse m'avait dit, vous savez... quand on touche à la qualité des spermatozoïdes et quand on touche à tout ce qui touche au sperme d'un homme, il y en a beaucoup qui le voient comme une remise en question de leur virilité. Il y en a certains qui l'acceptent mal. Moi, Cyril l'a pas du tout vécu comme ça. Il était à milieu de ça. Il y avait rien de culpabilisant pour lui. Il l'a vécu très tranquillement, très sereinement. Pour lui, c'était pas du tout un sujet d'angoisse.
Ouais.
Il l'a vécu de manière opposée à moi, ce qui était plutôt bien parce que ça rééquilibrait le truc dans notre couple. Et en même temps, c'était aussi source d'incompréhension entre nous deux. Je parle notamment de la première grossesse et de l'attente, où moi ça me préoccupait beaucoup et lui pas du tout, et donc il comprenait pas la place que j'accordais à ce sujet.
Ouais.
Et vice versa, donc ça peut aussi créer des moments d'incompréhension et de doute dans un couple qui sont pas forcément évidents.
Donc la deuxième grossesse,
La deuxième grossesse, donc ça a été tout l'inverse de la première. Les choses se sont faites naturellement, simplement, sans embûches. J'ai vécu l'opposé de tout ce que j'avais vécu à la première grossesse. Et la gynécologue m'avait dit d'ailleurs, vous savez, les femmes qui ont vécu une première grossesse compliquée, elles ont du mal à croire que tout peut bien se passer, oui. mais vous verrez, tout va bien se passer. Et donc, j'essayais de me convaincre. J'étais évidemment en alerte parce que ce que j'avais vécu pendant ma première grossesse à l'écho des 3 mois était quand même assez traumatisant. Mmh. Donc, tant que j'avais pas passé l'écho des 3 mois, pour moi, j'avais un truc de... On attend de voir, je suis sûre de rien. Et en fait, à l'écho des 3 mois, il y avait rien à signaler, si ce n'est que vu qu'on avait eu un cas de trisomie 21, on a tout de suite fait des prises de sang plus poussées.
Ah oui.
Parce que quand on a déjà eu un cas, on a le droit à des examens plus poussés.
Et oui, c'est un nom, ça, je sais plus.
Le DPNI, ça s'appelle diagnostic prénatal non invasif. À partir de la prise de sang, il reconstitue l'ADN du fœtus avec le sang de la mère.
Ah oui.
Et qui permet de déceler les trisomies. Donc, on a la certitude absolue, en fait, qu'il n'y a pas de trisomie si le test est négatif, ce qui a été notre cas.
Mmh.
Et donc, le reste de la grossesse s'est vraiment déroulé sereinement, facilement. Ouais. C'était un long fleuve tranquille, c'était tout ce qu'on n'avait pas eu. Et donc, j'étais heureuse de pouvoir vivre une grossesse normale et classique. Enfin, je sais pas s'il y en a des normales, mais en tout
cas,
plus légère et sans difficulté.
Ouais. Et pour l'accouchement, pareil, là, t'as rien prévu de particulier ?
Non, l'accouchement, j'étais aussi suivie à Port-Royal parce qu'ils avaient tous mes antécédents, tout mon dossier. Et donc, j'ai eu la chance d'être suivie par la même docteur qui m'avait accompagnée pendant la première grossesse et qui a été très rassurante, elle aussi. Et là, cette fois, on avait fait une écho un mois avant le terme. Et vu que j'avais un gros bébé, j'ai été déclenchée.
D'accord.
Donc j'ai aussi accouché 3 semaines avant le terme d'un petit garçon qui s'appelle Roman. Et voilà, et donc à 5 mois aujourd'hui. Et ce que j'ai pas dit, c'est que vu que pendant toute ma deuxième grossesse, en fait, on écrivait un livre avec Julie, mon amie d'enfance.
Ouais. Qui, alors, elle, pour resituer Julie, elle est passée dans l'épisode sur la GPA.
Voilà.
Elle a fait une GPA et donc oui, vous êtes...
Voilà, en fait, Julie, elle a fait une GPA aux États-Unis parce qu'elle avait une malformation de l'utérus qui faisait qu'elle pouvait avoir un enfant dans le sens où elle avait un cycle ovarien, elle ovulait, mais elle ne pouvait pas le porter parce que son utérus ne s'était pas développé. Ouais. Donc, elle a fait une GPA aux États-Unis. Et donc, en fait, on avait décidé... après qu'elle ait eu recours à cette GPA, d'écrire son histoire. Et l'éditrice que j'ai rencontrée m'a poussée à m'inclure dans son histoire pour faire un récit croisé sur l'infertilité au vu de ce que moi j'avais connu pendant ma... nos expériences radicalement différentes avec des ressentis parfois similaires. Et parce qu'il se trouve que moi, quand j'ai dû faire le deuil de jumeaux, Julie faisait sa GPA aux États-Unis, ils avaient implanté 2 embryons et il n'y en a qu'un qui a tenu.
Ouais.
Et donc, on a dû faire le deuil de jumeaux au même moment de nos vies. Et donc, on avait des histoires qui se croisaient à certains égards tout en étant extrêmement différentes. Et donc, on en a fait un livre donc, qui s'appelle « Tout s'est bien passé, merci » parce que c'était quelque chose qu'on répondait souvent toutes les deux et qui contribuait à invisibiliser tout ce qui s'était passé parce qu'on était nous-mêmes pas à l'aise. Et puis, on s'est dit que pour lever le tabou de l'infertilité, il fallait arrêter de répondre ça, il fallait dire la vérité, quand bien même on était pudique, quand bien même ça nous avait fait souffrir et quand bien même c'était pas facile d'en parler. On pensait que c'était important de le faire pour arrêter d'invisibiliser toutes les difficultés liées à l'infertilité.
Comment vous êtes rendu compte justement que vous invisibilisiez toutes les deux ? Ce qui vous arrivait, c'est parce que quand vous étiez toutes les deux, vous étiez sans tabou et donc...
Ouais, toutes les deux, on se racontait les choses, mais sinon, au-delà de notre cercle extrêmement proche, on n'en parlait pas du tout. Et on faisait comme si tout s'était bien passé parce que c'était plus simple, parce qu'on est toutes les deux de nature assez pudique.
Ouais.
Et par exemple, moi, tout ce que je viens de raconter là, j'aurais jamais pensé de ma vie le dire publiquement. Là, maintenant que j'ai écrit un livre là-dessus, je suis familiarisée avec le fait de parler de ces sujets hyper intimes. Parce que je suis convaincue de la nécessité de le faire, mais c'est pas évident de mettre sur la table ça touche à notre corps, ça touche aux parties les plus intimes de notre corps, ça touche à nos ressentis les plus intimes, ça, il y a beaucoup de culpabilité, et justement ce que j'avais pas dit sur ma deuxième grossesse qui m'a culpabilisée, c'est qu'en fait en ayant un enfant, en tombant enceinte naturellement, vu qu'on était en train d'écrire un livre avec Julie sur l'infertilité, ça m'a culpabilisée parce que j'avais l'impression que ça me délégitimait à parler d'infertilité, le fait que je sois tombée enceinte naturellement. Je me suis dit, mais en fait, tu parles d'infertilité en étant enceinte et en étant tombée enceinte naturellement. Et il se trouve que quand le livre est sorti chez Fayard en mai dernier, j'étais enceinte de 6 mois. Donc, c'était très curieux pour moi. Et j'avais l'impression de laisser tomber Julie, en fait, comme si toutes les deux, on avait eu nos propres petits parcours du combattant. Et que moi, là, j'étais dans un schéma, j'étais passée un peu de l'autre côté, dans la catégorie des gens normaux qui ont juste à faire l'amour pour avoir un enfant, ce qui nous était pas arrivé avec Julie jusque-là.
Ouais.
Et du coup, c'était assez bizarre pour moi de me dire que, en fait, j'étais comme tout le monde, que moi aussi, je pouvais tomber enceinte naturellement. Et puis, je me suis déculpabilisée en me disant que dans les histoires d'infertilité, il y a aussi des belles histoires de fertilité, et tant mieux.
Ouais.
Et ça arrive d'ailleurs... souvent qu'une femme qui a eu recours à tant de FIV finisse par tomber enceinte naturellement.
Ouais.
Et c'est un peu la magie de tout ça et qui rend aussi ces choses-là si douloureuses, c'est qu'il y a un côté totalement aléatoire. C'est la loterie et il y a une part d'irrationnel et il faut accepter qu'on ne comprenne pas toujours pourquoi ça ne marche pas. Et comme parfois on se fait surprendre parce que ça marche et donc on ne comprend pas non plus pourquoi ça a marché alors que tant de fois ça n'a pas marché. Et je pense que ça contribue à rendre tout ça absolument incroyable et merveilleux quand ça arrive. C'est que on est un peu impuissant, quoi. C'est qu'on maîtrise pas du tout tous les tenants et les aboutissants du truc.
Ah oui, s'il y a bien un domaine où on maîtrise rien, je pense que c'est bien celui-là.
Ouais. Donc la deuxième grossesse a été pour moi aussi une nouvelle découverte. En termes de ressenti sur cette fois tout marche et c'était tellement éloigné de tout ce que j'avais vécu et puis éloigné du sujet qu'on traitait dans notre livre avec Julie de l'infertilité. Et d'autant que moi je me suis dit qu'elle aussi, Julie, aurait aimé avoir 2 enfants. Donc il leur reste un embryon qui est congelé aux États-Unis, mais ça voudrait dire se relancer dans une nouvelle GPA avec tout ce que ça a de vertigineux. Alors que moi, j'ai eu la chance que ça m'arrive naturellement. Et donc, je trouvais ça injuste que moi, ça me soit... que ça soit possible pour moi et pas pour elle. Et comme c'était déjà injuste, le fait que pour nos premières grossesses, on était toutes les deux confrontées à des cas d'infertilité. Sauf que moi, j'ai fait 3 tests et que je suis rentrée dans un protocole PMA où tout m'a été offert sans que j'ai jamais su combien ça avait coûté. Alors que Julie a dû s'endetter sur des dizaines d'années, a dû aller à l'autre bout du monde pour avoir une réponse à son problème d'infertilité. Donc là aussi, je trouvais qu'il y avait une injustice terrible où je me disais pourquoi la société m'offre ce qu'elle lui refuse, en quoi mon désir d'enfant à moi est plus légitime que le sien, ou en tout cas pourquoi moi on y répond et pas elle.
Ouais.
Alors la GPA soulève beaucoup de débats et c'est quelque chose de très clivant et j'entends parfaitement, mais toujours est-il que nous deux, on était deux femmes avec une envie d'enfant et des difficultés pour en avoir, et que moi tout m'a été offert quand pour elle tout était interdit.
Et donc vous racontez toutes les deux tout ça et vos points de vue à chacune.
Voilà, on a fait un récit croisé de nos histoires qui étaient incroyablement similaires à certains points de vue, ce que je disais sur le fait qu'on ait dû faire un deuil des jumeaux au même moment de nos vies, et en même temps c'était extrêmement différent parce que une PMA en France, une insémination, c'est assez banal, si je puis dire. Moi, mon parcours est très classique, alors que le sien, c'était quelque chose d'absolument titanesque. C'était une montagne à gravir qu'ils ont gravi. Et ils ont une petite fille à la fin qui a le même âge donc, que mon fils Sacha, qui s'appelle Rose. Et donc, on a la chance finalement d'avoir toutes les deux des enfants du même âge qui vont bien. Voilà.
C'est quand même une magnifique aventure.
Incroyable histoire. Ouais. On était quelque part contentes de pouvoir lier notre histoire d'amitié, d'infertilité et de maternité.
Et puis vous allez pouvoir transmettre aussi ce livre à vos enfants pour qu'ils connaissent leur histoire.
Oui, on l'a fait aussi pour eux, pour qu'il n'y ait absolument aucun tabou sur tout ce qui a précédé leur arrivée. Et c'était important pour nous. Et puis c'était important aussi d'acter qu'on arrêterait de faire semblant, qu'on arrêterait de répondre que tout s'est bien passé, merci, pour mieux préparer les femmes à tout ce qui peut les attendre. Alors effectivement, il y a aussi énormément de grossesses, et tant mieux qu'ils se passent de manière linéaire et très bien, comme moi j'ai eu la chance de le vivre pour ma deuxième grossesse. Mais on s'est dit que peut-être qu'on aurait aimé à entendre davantage de témoignages, et notamment aussi quand on était toutes les deux en difficulté pour avoir des enfants. C'est toujours réconfortant. Moi, j'avais lu un livre à l'époque, quand j'arrivais pas à être enceinte, qui s'appelait « J'ai longtemps cru qu'il suffisait d'être deux ». Et le fait de lire un autre témoignage faisait que je me sentais moins seule.
Oui.
Et donc on s'est dit que c'était aussi important à notre tour de témoigner sur tout ce qu'on avait vécu, et que c'était important de pas véhiculer l'idée que être enceinte ou avoir un enfant n'était qu'un qu'heureux. C'est évidemment merveilleux, mais c'est vraiment pas que ça. Donc on voulait raconter tout ça.
Et il y a des femmes qui vous ont contactées suite à tout ça?
Beaucoup, ouais. Le livre est paru en mai dernier. Et en fait, suite à cela, on a reçu beaucoup de messages de femmes, et même des femmes, moi, que je pouvais côtoyer dans mon univers professionnel, donc qui n'étaient absolument pas des intimes, et qui m'écrivaient pour me dire « j'ai lu votre livre » ou « je vous ai entendu à la télé ou la radio quand on a fait la promotion de notre livre », en disant « merci pour votre témoignage, moi-même je suis dans un parcours de PMA, de FIV depuis des années, j'en parle à personne, on vit ça seul, c'est des drames totalement invisibles ». Et en fait, on s'est dit que si déjà on avait pu réconforter quelques femmes avec notre livre, avec notre témoignage, c'était déjà énorme, et c'était la raison pour laquelle on avait fait ce livre. Moi, ça m'a énormément touchée de recevoir ces messages de femmes qui vivent ça souvent dans leur coin et de manière assez isolée, parce que c'est pas facile de parler de ça, et quand on est une femme... qu'on a la trentaine, on est beaucoup confronté à ces questions parce que c'est l'âge où les gens font des enfants. Quand on est en couple, on peut souvent nous dire « et vous, c'est pour quand ?» Ou même quand on est enceinte, les gens se doutent pas forcément qu'on est enceinte, mais qu'on vit des choses difficiles enceinte. Donc ils l'assimilent qu'à quelque chose de joyeux. Donc ça nous a énormément touchés, quoi, de voir que des femmes nous ont dit qu'on mettait des mots justes sur leurs ressentis, Et c'était déjà énorme pour nous de savoir qu'on avait
contribué.
Voilà, qu'on avait pu toucher et j'espère réconforter certaines femmes ou même des amies que j'avais pas vues depuis le lycée qui m'ont écrit en me disant je suis dans un parcours de FIV, ça fait 5 ans que j'en bave, merci pour vos mots. Donc c'est évidemment très percutant et touchant de recevoir des choses comme ça.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
C'est une question assez complexe, mais en fait, pour moi, ça a été un accomplissement total. Je me suis jamais autant sentie moi-même qu'en étant mère, et c'est comme si ça m'avait même débarrassée de certains complexes. Où, en fait, je me suis dit que j'avais tellement... accompli ce qui était le plus important dans ma vie, qui était de fonder une famille, que d'avoir mes enfants et de potentiellement pouvoir les rendre heureux. Le reste n'était pas grave dans ma vie professionnelle. En fait, j'ai pris beaucoup de recul par rapport aux choses. Mmh. Et ça, je me suis rendu compte de ce qui était essentiel pour moi. Et pour le coup, c'est à la fois difficile, hein, parce que c'est épuisant d'avoir des enfants. Et puis, du jour au lendemain... On vit plus du tout pour soi, mais pour eux. Ouais. Le centre de gravité de notre vie s'est déporté. Mmh. Donc c'est déstabilisant. C'est pas forcément tous les jours facile. Et en même temps, moi, ça a vraiment été un accomplissement total. Et je suis très heureuse avec mes deux enfants. Après, je m'arrêterai là parce que c'est...
En même temps, c'était ton objectif, toi,
ouais,
deux.
Hein. Ouais, ouais. C'est une énergie folle, hein, ouais. Je trouve, et une responsabilité dingue que d'avoir des enfants, que de s'en occuper, que de les élever, que de leur inculquer ce qui nous semble être les bonnes valeurs à chacun. Je trouve que c'est une responsabilité énorme et je suis heureuse de pouvoir transmettre, d'apprendre la vie en fait à deux petites personnes, quoi. Mais voilà, donc je dirais, ouais, c'est un vrai accomplissement pour moi. Et en même temps, je dis ça tout en... Je trouve qu'il y a effectivement un peu une image de la famille idéale, Et moi, j'ai l'impression de totalement véhiculer cette image dans le sens où je suis dans la norme à 100%, couple hétéro, deux enfants. Il n'y a pas plus normé et classique que mon parcours. Et donc, je comprends tout à fait les autres formes de schémas familiaux, les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui se sentent justement accomplies en tant que femmes sans enfants. Et en fait, peu importe, il n'y a aucun bon ou mauvais schéma. Je pense que ce qui est essentiel, c'est juste d'aller vers ce qui nous rend heureux. Et moi, ce qui me rendait heureuse, c'était le fait d'avoir des enfants. Et j'ai eu la chance de rencontrer la personne avec qui j'avais envie d'en faire. Et, et voilà, mais il y a 1000 schémas possibles. Il faut juste que chacun trouve le sien, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Je dirais que c'est quelque chose, c'est plutôt une lessiveuse, dans le sens où on est, après c'est vrai aussi en dehors de Paris, mais il y a quelque chose forcément de très urbain dans le mode de vie, qui est assez intense entre notre métier, notre rôle de mère, et ça ne s'arrête jamais. Et en même temps, moi je suis contente de pouvoir élever mes enfants à Paris et de leur apporter... tout ce qu'on peut avoir à Paris, à savoir la beauté de la ville, le bagage culturel qu'il peut y avoir dans cette ville, et de me dire que moi j'adore Paris, j'adore y vivre, et je suis contente de me dire que mes enfants vont évoluer dans cet univers-là.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris ?
Les buts de Chaumont. Après, je dis ça aussi parce que nous on vit à côté des buts de Chaumont, et pour le coup je trouve ça hyper chouette parce qu'il y a plein d'activités possibles pour les enfants, en dehors du parc, il y a Guignol, dont nous, notre fils est absolument fan.
On passe tous par Guignol.
Voilà. Il y a un lac avec des canards. Enfin, été comme hiver, ça fonctionne. C'est beau, c'est agréable, c'est apaisant. Les enfants s'y sentent bien. Moi, c'est vraiment un endroit où j'aime aller avec mes enfants.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Alors mes projets rien que pour moi, je me suis dit justement maintenant que j'étais mère de deux enfants et qu'en fait on peut complètement se laisser prendre dans le rythme enfant-travail, d'essayer de trouver du temps pour moi et pour ce que j'aime et ce qui m'équilibre. Et donc moi, savoir ce qui compte, c'est voir mes amis et de me faire des temps qu'avec mes amis à boire des verres et à parler de, d'autres choses que les, des enfants. Ouais. Et puis prendre soin de moi aussi, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile. Enfin, faut vraiment se ménager du temps. Et donc, j'essaye de continuer à faire du sport, parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien physiquement et moralement, ça me vide l'esprit. Donc j'essaye, malgré le rythme assez intense, de me trouver des moments pour moi. Voilà, en voyant mes amis et en ménageant des temps pour me vider la tête en faisant du sport. Et en famille, on a un rythme assez effréné où moi maintenant je travaille la moitié du week-end tous les samedis, donc notre seul temps en famille c'est que le dimanche. Et donc c'est hyper important pour moi qu'on ait des moments que tous les quatre, qui sont assez rares dans la semaine, mais qu'on essaye de rendre du coup plus qualitatif en étant complètement dispo pour nos enfants, en mettant les téléphones de côté, parce que je trouve que c'est un objet qui peut vite polluer le temps qu'on a avec son enfant, en rentrant du boulot, en continuant à envoyer des messages. Et donc j'essaye de mettre ça de côté pour avoir vraiment un temps où je suis là que pour mes enfants et pour rien d'autre.
Merci beaucoup Caroline.
Merci à toi.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite !